Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est la force de son peuple, il est le rempart, sauveur de son oint. Bénissez votre peuple, Seigneur, et bénissez votre héritage, soyez leur chef et leur guide à jamais. Mes très chers frères, ces paroles que vous avez entendues sont les paroles de l'introïte de la messe du sixième dimanche après la Pentecôte. Dimanche dernier, nous avions souligné que l'unité des chrétiens dans l'Église est le contexte obligé de nos prières. Si Dieu nous aime, il nous aime en tant que membres du corps mystique de son divin Fils. Si Dieu veut nous exaucer, c'est dans la mesure où, comme dit notre Père Saint Augustin, nous le prions par l'unique bouche qui est la bouche de notre chef, de notre tête, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc aujourd'hui à voir, avec l'aide du Saint-Esprit, premièrement, comment le chrétien doit prier et comment il prie en union avec le corps du Christ. Deuxièmement, quels sont les effets vérifiables de cette agrégation qu'il a eue par le baptême au corps mystique du Christ. Et enfin, quels sont les avantages de cette agrégation. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Le Seigneur est la force de son peuple. La force des chrétiens, mes très chers frères, c'est Dieu même. Dieu se communique aux chrétiens par les sacrements. C'est la grâce qui est reçue par les sacrements, qui est la grâce sanctifiante, qui n'est la grâce des sacrements seuls, ce n'est pas une grâce générale, une grâce que Dieu donne à tous, ou en général, c'est la grâce que Dieu donne aux chrétiens, et encore aux chrétiens en état de grâce. Eh bien, cette grâce consiste dans l'inhabitation de la très sainte Trinité par la grâce sanctifiante, justement, dans le cœur, dans l'âme du chrétien. Le support de la grâce, vous le savez, mes très chers frères, c'est l'ordre et c'est l'ordonnation de la personne dans un état de vie sanctionné par Dieu. D'une manière ou d'une autre, il faut être en ordre pour recevoir la grâce sanctifiante, sinon la grâce sanctifiante est comme un parfum précieux qui est versé dans un vase cassé. Ça ne veut pas forcément dire que le vase est sale, mais il suffit que le vase soit cassé, soit désordonné, pour que la grâce sanctifiante ne soit pas retenue par lui. La grâce, autrement, la grâce de... Il faut que nous soyons dans la volonté de Dieu, autrement, la grâce ne viendrait que féconder les divers mouvements de la volonté propre, ce qui est impossible. Parce que la grâce de Dieu est ce qui nous est donné pour nous attirer vers le ciel. Ce n'est pas quelque chose qui nous est donné pour que nous allions mieux sur la terre ou que nous ayons des consolations qui, disons, qui nous fassent plaisir et qui soient indépendantes de la volonté de Dieu pour nous. Donc, lorsque le psalmiste, toujours dans l'introïde, dit « Le Seigneur est la force de son peuple », ce n'est pas qu'il leur rend des coups de main de temps en temps, même si Dieu parfois déploie son bras pour nous libérer d'une façon particulière, mais il est lui-même la force de son peuple, c'est-à-dire que par la grâce sanctifiante, il habite lui-même dans le cœur des chrétiens, c'est-à-dire de ceux qui font partie du membre mystique, qui font partie du corps mystique de son Fils. Ensuite, il est dit, il est le protecteur et salutarium Christi sui, il est le protecteur et le salut de son Christ. C'est-à-dire que, il faut bien comprendre ce que cela signifie. Le Christ de Dieu, c'est le Messie. Le Messie est le serviteur de Dieu. Il fait tout ce que Dieu lui ordonne. Le Christ n'a jamais rien fait que Dieu ne lui ordonnait de faire. Il n'a jamais rien fait de son propre chef. C'est pas impossible. Le Christ nous dit qu'il ne dit, il n'a jamais dit que les paroles qu'il a entendues de son Père. De telle sorte que notre Seigneur, en tant que vrai homme, est, si l'on peut dire, le modèle des chrétiens, je dis si l'on peut dire parce qu'il l'est beaucoup plus, mais il est le modèle des chrétiens dans l'abandon à la volonté de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, dans le fait de ne rien faire de par sa volonté propre. Il est Dieu, il est le protecteur et le salut de son Messie. Notre Seigneur est donc le serviteur de Dieu, et nous savons par le prophète Isaïe qu'il est le serviteur souffrant. L'incarnation, mes très chers frères, avait pour but l'expiation des péchés de l'homme. Encore une fois, répétons-le, notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas incarné, comme disent certaines personnes un peu fantasques, pour voir comment ça fait d'être un homme, pour jouir de la jouissance d'être un homme, lui qui n'avait jamais joui que la jouissance d'être Dieu. Dieu, le Fils, s'est incarné pour nous les hommes et pour notre salut. C'est-à-dire que, voyant que nous avions prévariqué dans la personne de nos premiers parents, il est venu pour être l'agneau sacrificiel qui, versant son sang, a été agréé par Dieu et a opéré la réconciliation. Il est donc le serviteur souffrant et l'incarnation a eu pour but l'expiation de nos péchés. L'humanité divine de notre Seigneur Jésus-Christ a été soutenue et sauvée par sa divinité et son sacrifice a été agréé par Dieu. C'est pour cela que le psalmiste dit « Il est le protecteur et le salut de son Christ, de son oin, du Messie. » Il est son protecteur dans le sens où il n'a pas permis qu'il meure, que les hommes le mettent à mort avant son temps. C'est pour cela qu'il est dit plusieurs fois dans l'Évangile que son temps n'étant pas encore venu, il a échappé à la colère de ses adversaires. Et il dit « Et salutarium Christi » et il est son salut, non pas que le Christ ait eu besoin d'être sauvé, mais l'efficace du salut apporté par le Christ n'est autre qu'une efficace divine. C'est l'efficace de la deuxième personne de la très sainte Trinité, un seul Dieu, qui a versé son sang pour nous les hommes et pour nous racheter. C'est une chose très importante à comprendre, sinon on ne comprend pas comment interpréter ce verset du psaume. Et il est dit encore « Salvum fac populum tuum domine ». Sauvez votre peuple, Seigneur, et bénissez votre héritage. Et regeos usque in seculum, et soyez leur roi, et dirigez-les jusque à la fin des temps. Le salut, salvum fac populum tuum, le salut du peuple de Dieu, est le résultat de la transaction du Fils et du Père. Le peuple de Dieu n'est autre que, dans l'absolu, l'ensemble des membres vivants du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est certes composée de divers membres, elle est composée de bons grains et d'ivraies, elle est composée de bois morts et de bois vivants, mais dans l'absolu, c'est-à-dire sous l'aspect de l'éternité, comme disent les théologiens, eh bien, seuls sont membres de l'Église les membres vivants. Les membres morts sont des membres qui, par la grâce de Dieu, peuvent être restitués à la vie. Mais en même temps, notre Seigneur nous prévient, si nous mourons membres de l'Église déjà morts, nous mourrons une autre fois, et cette fois pour de bon. Donc, sauver votre peuple, Seigneur, consiste à dire appliquer l'efficace du salut opéré par le Christ à ceux qui doivent être sauvés. Qui salvandos salvas gratis, nous chantons dans le Dies Irae. Vous qui sauvez gratuitement ceux qui doivent être sauvés. Notre Seigneur Jésus a versé son sang afin que par le sacrement du baptême, ceux qui reçoivent le baptême puissent être réconciliés avec Dieu. C'est ainsi que le peuple de Dieu est sauvé en étant agrégé au corps mystique de son Fils, de telle sorte qu'il n'y a pas de peuple de Dieu en dehors des membres du corps mystique de son Fils, et tous ceux qui sont les membres du corps mystique, les membres vivants du corps mystique du Christ, sont véritablement membres de l'Église. Le peuple de Dieu, encore une fois, c'est l'ensemble des membres vivants du corps mystique du Christ. Si, nous disent les auteurs, si nous séparons du corps mystique du Christ, par le schisme évidemment, mais aussi par disons le péché mortel, par une mauvaise volonté, alors nous dépérissons, puisque nous ne sommes plus parmi les rameaux verts, les rameaux qui peuvent porter du fruit. Et nous sommes en danger d'être retranchés. Et le psaume dit « Et benedic hereditati tue », bénissez votre héritage. Il faut comprendre pourquoi le psalmiste demande à Dieu de bénir son héritage. Il s'est bâti une vigne, il s'est planté une vigne, dit le prophète, et il a lui-même arrosé cette vigne. Dieu s'est acquis un peuple saint, il s'est formé un peuple saint, à sa gloire, il lui donne sa bénédiction afin de les sanctifier, de les garder du monde et de les affermir dans le Christ. Si Dieu bénit son peuple, ce n'est pas pour nous faire plaisir ou pour nous faire du bien ou pour, d'une certaine manière, nous faire que nous puissions nous glorifier d'être le peuple de Dieu. C'est parce que la vigne qu'il a plantée, il la cultive pour pouvoir en manger du fruit. Donc vous voyez, bien sûr que la bénédiction divine nous sert à être heureux dans un certain sens, mais elle sert surtout à Dieu à recevoir les fruits des plantes qu'il a plantées, des rameaux qu'il a émondés. Dans Saint-Introït, qui est tiré du psaume 27, nous apercevons que, alors même que nous demandons à Dieu de bénir son peuple et de nous bénir par la même occasion, puisque nous sommes membres de son peuple, il est impossible de demander à Dieu qu'il nous bénisse, nous, individuellement, indépendamment du dessein qu'il a pour son peuple, pour son corps mystique. C'est cela le contexte dans lequel le chrétien doit prier. Nous devons toujours prier pour que l'exaucement que nous demandons à Dieu soit au moins potentiellement à l'avantage de tout le corps mystique. C'est ainsi que nous ne pouvons pas prier Dieu contre nos frères d'une façon, disons, qui vise à les exclure. Vous voyez, Seigneur, débarrassez-moi de cette personne qui me nuit. Nous pouvons demander à Dieu d'être protégé, nous pouvons demander à Dieu que pour sa gloire, il fasse cesser la persécution, c'est un fait. Mais nous ne pouvons pas demander à Dieu, parce que cela nous chante, de priver de salut éternel quelqu'un qui a droit au salut éternel au même titre que nous, c'est-à-dire en tant que baptisé, en tant que membre de l'Église catholique. Vous voyez, nous devons toujours prier de telle sorte que l'unité se renforce. Si nous avons un conflit, nous devons prier à Dieu, nous pouvons lui demander que ce conflit se résorbe, mais nous devons prier de telle sorte qu'il se résorbe par un accroissement de la charité fraternelle et un accroissement des liens qui nous unissent dans le Christ. Nous ne pouvons pas demander à Dieu qu'il ampute son Église ou les membres de son Église à notre avantage. La tête de tel ou tel frère ou telle ou telle sœur ne me revient pas. Je demande à Dieu qu'il l'écarte de moi. Le problème, c'est que si je dois la retrouver, cette personne, au ciel, mon frère au ciel, je vais être malheureux. Ça montre bien que je ne peux pas être exaucé. L'unité de l'Église, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et que nous devons toujours poursuivre. Nous retranchons de l'unité de l'Église quand il nous semble que, finalement, la vie chrétienne, c'est une affaire entre moi et Dieu et qui ne regarde personne. C'est totalement faux. Si j'ose dire, non seulement c'est faux, mais en plus, d'une certaine manière, et pour être en réaction, disons, je dirais, le rapport entre Dieu et moi concerne tout le monde. Si je vais bien, mes frères en reçoivent des bénédictions. Si je vais mal, mes frères en reçoivent de l'affliction. Vous voyez, nous sommes les membres d'un même corps, et bien souvent, lorsque nous allons mal, mais aussi des fois quand nous allons bien et que notre cœur s'élève vers Dieu, il nous semble que nous prions à Dieu indépendamment du corps duquel nous faisons partie et sans lequel nous ne sommes jamais qu'un membre ou un rameau mort, moribond et un morceau de bois sec. Nous devons toujours prier pour l'avantage de l'Église. C'est pour cela que nous prions le Pater Noster, quand nous le prions tout seul, nous le prions quand même au pluriel. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, donnez-nous aujourd'hui, etc. Nous ne disons pas, mon Père, donnez-moi. Pourquoi ? Parce que, même si nous sommes numériquement tout seuls, il se trouve que nous sommes réellement un membre du corps mystique du Christ, et que nous n'existons qu'en tant que membre. C'est là notre qualité principale, particulière, qui fait que, si nous nous séparons du corps mystique du Christ, nous ne pouvons plus recevoir la vie qui est la vie commune. Par conséquent, nous ne pouvons pas demander à recevoir la vie qui est la vie commune comme si c'était une faveur particulière à nous, dont les autres devraient être plus ou moins laissés pour compte. Le Seigneur est la force de son peuple, il est le rempart et le sauveur de son oint. Sauvez votre peuple, Seigneur, et bénissez votre héritage, soyez leur chef et leur guide à jamais. Regeos usque in seculum. Régissez-les jusque dans l'éternité. Si Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps, c'est pour être notre roi. Non pas pour être le pourvoyeur de notre bonheur temporel, non pas pour être celui qui nous donne des coups de main si ça va mal et puis qui se retire quand les choses vont bien. Il nous guide comme un berger son troupeau. Il est notre roi. Donc, nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses enfants, bien entendu, mais ses enfants qui le servent. Nous ne sommes pas des enfants gâtés de Dieu, nous ne sommes pas des enfants qui font les 400 coups, nous ne sommes pas comme des enfants de riches qui font n'importe quoi. Bon, il se trouve que nous sommes les enfants privilégiés de Dieu, parce que si nous n'étions pas les enfants de Dieu, nous serions, en quelque sorte, nous aurions comme père le diable. Ce qui est une situation très embarrassante et très mortifiante pour l'être humain. En réalité, la plupart du temps, il ne s'en rend pas compte, mais en réalité, c'est une chose horrible que d'être enfant du diable. En réalité, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes à la fois dans l'état qui est prévu pour la nature humaine, et en même temps, nous sommes dans un état duquel nous ne devons pas déchoir, sans quoi, en tant que baptisés, notre situation sera bien pire que celle qu'elle a été au temps où nous n'étions pas baptisés, où nous n'étions pas convertis, que sais-je. Et regeos usque in seculum. Régissez-les jusque dans l'éternité. Si Dieu est avec nous, c'est jusqu'à la fin des temps, pour être notre roi et pour que nous soyons ses serviteurs. De telle sorte que, mes très chers frères, désobéir à Dieu, c'est se soustraire à sa bonté et s'exposer à sa colère. Ce n'est pas simplement que nous perdons des avantages, comme on le dit souvent, et on le dit souvent pour ne pas effrayer les mondains, mais en réalité, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas que nous perdons les avantages de la vie chrétienne lorsque nous nous écartons de la vie chrétienne. Lorsque nous sortons de la vie chrétienne, lorsque nous sortons de sous le dôme protecteur, le bouclier, le firmament qu'est notre Dieu, alors il se trouve que nous rentrons dans un monde qui est envahi par la colère de Dieu, c'est-à-dire la sainteté de Dieu. Dieu n'est pas en colère en permanence. Dieu est saint et tout ce qui n'est pas in Christo, et donc à l'extérieur du Christ, or, nous chantons « Tu solus sanctus, tu solus dominus ». Vous seul êtes saints. Si nous sommes saints, c'est dans la mesure où nous nous maintenons dans l'unité du corps mystique du Christ. Dès que nous sortons de ce corps mystique du Christ, nous n'allons pas simplement à l'aventure, en faisant nos petites affaires, en ayant moins d'avantages, voire pas du tout. Nous sommes comme des insensés qui, sortant de l'armure protectrice, rentrent dans une fournaise. C'est une situation qui est terrible et ce n'est dû qu'à la bonté de Dieu la plupart du temps que nous n'expérimentions pas les conséquences directement de nos désobéissances. Parce que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, mais il ne faut pas présumer de la patience divine. Donc, c'est pour cela, mes très chers frères, qu'il faut développer cette conscience d'être un membre du corps mystique du Christ, et de ne rien être autre, de telle sorte que nous puissions mieux comprendre ce que dit saint Paul dans l'Épître. « Mes frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons en effet été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir, afin que comme le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous marchions nous aussi pareillement dans une vie nouvelle. Car celui qui est mort est justifié du péché, que si nous sommes morts avec le Christ, croyons que pareillement, nous vivrons avec le Christ, sachant que le Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, que la mort n'aura plus d'empire sur lui. Car en tant qu'il est mort pour le péché, il est mort une fois pour toutes, mais en tant qu'il vit, il vit pour Dieu. Vous donc aussi, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » L'efficace du baptême, nous l'avons dit, c'est l'application de la mort et de la résurrection du Christ. Nul ne peut être sauvé sans le baptême, c'est-à-dire nul ne peut être sauvé qui demeure dans l'état natif de la nature humaine depuis la chute, dans l'état de chute. Il se trouve que le baptême n'est pas simplement une étiquette que Dieu nous met sur la tête pour que nous éventuellement puissions aller au ciel, c'est une incorporation, c'est une agrégation au corps mystique du Christ. Ce que nous étions autrefois, sans le baptême, ou lorsque nous oublions notre baptême, désormais, nous ne le sommes plus du tout. C'est une illusion si nous avons encore une mémoire. Vous voyez ? Alors, vous allez dire, pourquoi est-ce que le baptême des adultes, par exemple, ne leur efface pas la mémoire de tout ce qu'ils ont fait jusque-là, et qu'ils ne sont plus, puisqu'ils sont morts et ressuscités ? Cette question est assez stupide, parce que, d'une certaine manière, si le nouveau baptisé adulte avait des trous de mémoire, il serait moins apte à se sanctifier, puisque ça serait une sorte de fou, de malade ou d'amnésique. Donc, ne demandons pas à Dieu de faire des choses qui relèvent finalement de notre paresse, combattons la mémoire que nous avons de cet état, de ce que nous étions dans cet état que nous ne sommes plus, dans lequel nous ne sommes plus, qui n'est plus le nôtre. Nous nous souvenons d'avoir fait des choses, d'avoir dit des choses, d'avoir pensé des choses. Souvenons-nous-en comme quelqu'un qui était dans un incendie et qui en a été arraché s'en souvient, c'est-à-dire avec une certaine horreur. Celui qui a vu les flammes de près, celui qui a vu les flammes de toutes parts et qui a vu tout d'un coup un pompier surgir d'entre les flammes, l'attraper et l'emmener en lieu sûr, une fois qu'il est sauvé, ne se dit pas « Ah, c'était bien, c'était intéressant, j'avais des flammes, les flammes venaient me lécher les cheveux, le nez, etc. » Non, il se dit « Si je pouvais oublier cette vision d'horreur, je le ferais. » C'est pour cela qu'il doit en quelque sorte un petit peu se réacclimater à la vie normale et en quelque sorte laisser ses souvenirs s'estomper. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Si nous nous souvenons d'avoir été quelque chose qui est incompatible avec notre nouvelle vie, c'est-à-dire tout ce que nous étions, alors nous devons faire en sorte de remplacer ce souvenir par la conscience de ce que nous sommes actuellement. L'efficace du baptême est donc non seulement de nous remettre nos péchés, mais il nous remet nos péchés, non pas comme on remet la dette de quelqu'un en effaçant son ardoise, mais parce que nous sommes morts en tant que pécheurs et ressuscités en tant que notre Sauveur, le Christ de Dieu. Le Christ de Dieu, lui, dont Dieu lui-même est le protecteur et le salut, comme nous l'avons expliqué il y a un instant. Le baptême est beaucoup plus que cela, si j'ose dire. C'est non seulement une mort et une résurrection dans le Christ, mais c'est aussi une alliance que nous faisons avec Dieu. Je vous renvoie à l'enseignement de Saint Jean-Eudes, par exemple, mais tout le monde le dit, évidemment, tous les pères le disent. C'est une alliance que nous faisons avec Dieu, et dans cette alliance, nous prenons des engagements. Dieu aussi prend des engagements, mais nous savons que lui les tient toujours. Tandis que nous prenons nos engagements, et si nous récusons nos engagements, comme cela arrive malheureusement bien souvent, eh bien, nous ne sommes rien moins que des parjures. Et c'est une chose très mauvaise que d'être parjure, parce que ça fait de nous un pécheur, et ça fait de nous quelqu'un qui méprise la parole donnée. Alors vous allez dire, mais je n'ai pas choisi d'être baptisé, etc. Votre raisonnement est aussi intelligent que quelqu'un qui serait dans un incendie et puis qui serait sauvé et qui dirait, mais je n'ai pas choisi de sortir. Il fallait que je réfléchisse. Vous savez, vous n'avez pas beaucoup de temps pour réfléchir. Hein, réfléchir si vous voulez être sauvé ou pas. Soyez reconnaissant envers la personne qui vous a sauvé. Et ensuite, vous réfléchirez comment vous allez maintenant organiser votre vie de sauvé. Le baptême, l'engagement que nous faisons avec Dieu au baptême, nous oblige. Si nous ne respectons pas les vœux que nous avons prononcés au baptême, nous sommes parjures, nous l'avons dit. Nous ne devons pas regretter, mes très chers frères, les oignons d'Égypte, qui sont des choses qui nous étaient agréables, certes, maintenant nous sommes dans le désert de la volonté divine, mais c'était des choses agréables, mais il ne faut pas non plus oublier, si nous regrettons les bonnes choses que nous avions en Égypte, il ne faut pas oublier non plus que nous étions esclaves, que nous étions condamnés non seulement à faire des briques, mais aussi à ramasser la paille nous-mêmes pour les faire, et que tous nos enfants mâles étaient jetés dans le fleuve pour être tués. Donc ça fait quand même cher les oignons, si j'ose dire. Vous voyez, c'est une chose que de se souvenir des bons côtés, si j'ose dire, de la vie mondaine, et puis c'en est une autre que de se rendre compte du prix à payer. Un petit peu comme quelqu'un qui aurait été sevré, je ne sais pas moi, de l'alcoolisme par exemple, et qui disait c'est de tel ou tel vin, tel ou tel alcool, et avait un très bon goût. C'est vrai, sans doute, personne ne le nie, mais en même temps ça agissait directement sur votre foi, car dans l'alcool il n'y a pas que le goût, il y a aussi la puissance, la force, le feu. Et ce feu était en train de vous ronger, en train de vous détruire. Vous allez dire si je pouvais avoir le goût sans le feu. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il faut avoir l'un ou l'autre. Ou bien nous avons la douceur du monde et nous sommes esclaves du diable et nous allons en enfer, ou bien nous avons en quelque sorte la sévérité de Dieu et nous sommes enfants de Dieu et nous allons au ciel. Et il se trouve que, bien entendu, dès que nous avons cessé de regretter ce que nous avions en Égypte, nous nous apercevons que Dieu fait pleuvoir sur nous la manne, qu'il fend les rochers pour nous donner de l'eau en abondance, qu'il nous guide au travers de la mer, qu'il détruit nos ennemis, qu'il nous fait rentrer dans un pays découlant de lait et de miel. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, dit le psaume. Effectivement, tant qu'on a encore à l'esprit la relative douceur et relative bonté de l'Égypte, on ne peut pas goûter que Dieu est bon. Il faut avoir rejeté tout ceci pour pouvoir faire l'expérience de Dieu, car Dieu est un Dieu jaloux qui ne permet pas, voyez, que l'on fasse expérience de sa douceur tout en se souvenant de la douceur relative du monde. Il ne le permet pas, et d'autre part, c'est impossible, puisqu'il n'y a pas de proportion entre la douceur de Dieu et la bonté relative du monde. Saint Paul nous dit « Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il y a deux choses à comprendre. Premièrement, que lorsque saint Paul dit « Regardez-vous comme morts au péché », il dit premièrement « Considérez que vous l'êtes ». Vous allez dire « Hélas, j'ai bien l'impression que ce n'est pas vrai puisque je suis souvent adonné au péché ». Le problème, c'est que c'est une impression fausse. Bien sûr, c'est nous qui péchons et ce n'est pas bien de pécher. Mais en même temps, nous péchons en tant que baptisés. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là en train de nous imaginer que nous sommes dans une nouvelle situation, nous sommes réellement dans une nouvelle situation. Et deuxièmement, lorsqu'il dit « Regardez-vous comme morts au péché », c'est une contemplation de ce que nous sommes qui doit nous amener, avec l'aide de la grâce de Dieu, à, en quelque sorte, comme on dit souvent, mais c'est une expression qui est vraie, à devenir ce que nous sommes. Regardez-vous comme morts au péché, car vous êtes morts au péché. Oui, mais le péché domine dans ma vie. Eh bien, c'est une illusion. Pourtant, ce n'est pas une illusion, puisque c'est moi qui pêche et que je dois bien me confesser. Ce n'est pas un faux péché que je commets pas. C'est une illusion qui perdure. Vous voyez, je ne suis plus dans la fosse, je ne suis plus tombé dans la fosse, mais il se trouve que après m'être lavé, après m'être récuré, etc., pendant un certain temps, j'ai encore une certaine odeur qui flotte dans mes narines. Je suis tombé dans la fosse, je me suis lavé, j'ai été lavé par le baptême, mais il se trouve que j'ai encore l'impression d'y être. Vous allez dire, oui, mais c'est une impression désagréable. Eh bien, disons que parfois, il y a le parfum du monde qui reste quelque peu dans nos narines, et nous ne nous rendons pas compte que nous avons été lavés par le baptême. Il nous semble toujours que nous sommes quelque peu mondains, quelque peu attirés par le monde. C'est une illusion. Une illusion qui peut sembler bien réelle, je ne nie pas qu'elle n'ait pas des effets catastrophiques, mais c'est une illusion parce que si c'était l'expérience que nous sommes mondains, ce serait une expérience impossible puisque nous sommes maintenant divins par le baptême. Donc c'est une illusion qui perdure, qui persiste et qui nous fait pécher. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur signifie bien prenez conscience que ce que vous étiez, vous ne l'êtes plus. Bien malheureux, celui qui dit « Hélas, je ne suis plus ce que j'étais ». Il faut être complètement insensé pour se dire sérieusement « Je préférais être esclave du diable ». Le diable n'est pas comme le bon Dieu, il n'est pas un maître compatissant, c'est un maître qui fait payer très cher les quelques cacahuètes qu'il vous le donne. Vous voyez ? Tandis que Dieu, c'est le maître qui a payé avec le prix de son propre fils tout ce qu'il vous donne, sachant qu'il vous donne... Et il vous donne encore plus que vous pouvez l'imaginer. Et puis il n'y a pas de comparaison. Regardez-vous comme morts au péché. Cette mort a deux aspects, mes très chers frères. Elle a deux implications majeures. Premièrement, la séparation d'avec le monde. Un auteur nous dit, en commentant ce passage, « Nous devons être, nous regarder comme morts et ensevelis dans le Christ. » C'est-à-dire que, le chrétien qui, l'homme qui commence à être touché par la grâce est comme un mort qui est encore qui est encore sur son lit, entouré par sa famille. Et le chrétien qui a été happé par la grâce est comme un mort qui est dans le tombeau, c'est-à-dire que la porte s'est refermée sur lui, il est totalement seul, c'est-à-dire il est loin du monde des vivants, duquel il n'est plus. Nous sommes loin, très loin, mes très chers frères, du monde des mondains, duquel nous ne sommes plus. Pourquoi ? Parce que la pierre du tombeau du Christ s'est abattue sur nous et désormais nous sommes cachés dans le Christ en Dieu. Nous sommes morts au péché. Donc une première implication de ces vérités glorieuses que nous voyons, c'est que nous devons nous séparer d'avec le monde. Des fois, nous sommes appelés à nous séparer d'une façon très précise et c'est dans l'état religieux, puis des fois nous devons nous séparer autant que cela se peut, et nous devons faire tous les efforts pour l'être, du monde, et quand nous sommes encore dans l'état laïque, mais il se trouve que, même dans l'état laïque, il s'agit d'une vraie séparation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fréquenter ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, nuire à notre foi, sachant qu'il y a jusqu'à un certain point un contact que nous devons avoir avec les gens du monde. C'est prévu par la religion, mais nous ne devons pas faire amitié avec eux. C'est une véritable séparation que Dieu demande de nous. Et ensuite, c'est une vie de pénitence. Ce que dit un auteur. Cette mort du baptême, devant être suivie d'une autre vie, on se trompe souvent en se comprenant son ancienne vie un peu déguisée, à laquelle on croit être mort et dans laquelle on rentre à nouveau insensiblement. Donc son ancienne vie un peu déguisée, on la prend pour la nouvelle à laquelle nous avons dû rentrer afin d'être ressuscités en Jésus-Christ. C'est une erreur de se croire mort au péché alors que l'on est endormi au péché. Vous voyez, ce même auteur nous dit qu'il y a une erreur commune que l'on fait, c'est de se croire mort au péché, dès lors qu'on a confessé ses péchés. Vous voyez, il y a au fil du temps, il y a eu un abus qui est rentré dans la mentalité des catholiques, c'est d'imaginer qu'une fois qu'on a confessé ses péchés, le compteur est remis à zéro. Je ne dis pas qu'on peut recommencer à pécher, puis qu'on les confessera la prochaine fois, mais disons que le compteur est remis à zéro, il n'y a plus rien. Il y a encore plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a l'habitude du péché, il y a le pécheur aussi. Le pécheur qui s'est confessé, qui a reçu l'absolution, mais recevoir l'absolution, ça ne veut pas dire autre chose que de ne plus être dans un état de mort spirituelle. Encore faut-il vivre en tant que vivant spirituel. C'est-à-dire qu'il faut confesser ses péchés, c'est évident, mais il faut aussi vivre une vie de pénitence, une vie de conversion. De telle sorte que nous ne retombions plus dans nos péchés ou que nous fassions tous nos efforts pour ne pas retomber dans nos péchés. Si nous confessons nos péchés et que nous nous laissons retomber, alors on peut retomber par la faiblesse, etc. Les confesseurs sont là pour aider les gens. Mais si nous confessons nos péchés et il nous semble qu'après nous pouvons les refaire et que ça sera comme la première fois que nous les avons faits, nous nous trompons complètement. Nous devons nous séparer du monde et vivre une vie conforme à notre nouveauté de vie, la nouveauté de vie que nous avons reçue. Cette nouveauté de vie, mes très chers frères, je le dis carrément, doit se manifester par un miracle de transformation. Notre vie doit porter des fruits en abondance. N'oubliez pas que si Dieu bénit son héritage, ce n'est pas pour que nous ayons la fierté d'être chrétiens, que nous mettions, je ne sais pas, un petit pins pour faire mariner les gens, etc. Si Dieu bénit son héritage, c'est pour en recueillir du fruit. Quel vigneron, quel planteur, quel jardinier plante des fruits et se contente d'avoir 2-3 grappes, 1 ou 2 grains qui pendent sur un petit sarment. S'il plante une vigne, c'est pour avoir beaucoup de fruits. Le vigneron a moins de peine de devoir, en quelque sorte, gâcher des fruits qui tombent par terre tellement il n'arrive pas à tous les stocker dans ses tonneaux, que lorsqu'il voit qu'il n'y a quasiment aucun fruit sur la vigne. Vous voyez ? Donc, la nouveauté de vie que nous avons reçue par le baptême, doit se manifester d'une façon évidente. On ne peut pas être des crypto-chrétiens. On ne peut pas être des chrétiens, des intermittents du baptême. Un jour nous sommes chrétiens, un jour nous sommes mondains. Il faut que notre conversion soit un miracle de transformation. Alors vous allez dire, mais Dieu seul fait des miracles. Alors recourons à lui. Personne n'a dit qu'il fallait faire semblant d'être transformé, mais qu'il fallait être transformé par la grâce de Dieu. Il fallait se laisser transformer par la grâce de Dieu. Vous voyez ? Imaginez la personne qui est tombée dans une fosse, qui s'est lavée, qui a encore l'odeur dans le nez. Si quelqu'un lui dit, tiens, écoutez, pour chasser cette mauvaise odeur dans vos narines qui subsiste, regardez, sentez un peu cet excellent parfum que j'ai sous la main. Ah non, non, je vais rester comme ça, je vais laisser s'estomper. Donc ça veut dire que, d'une part, vous ne devez pas vous plaindre que dans vos narines ça sente mauvais, et d'autre part, ça veut dire que vous êtes quand même un peu bizarre, parce que ça veut dire que, alors que vous auriez la possibilité de chasser une fois pour toutes cette horrible odeur qui subsiste dans vos narines, vous n'utilisez pas cette possibilité. Donc ça veut dire que ça vous plaît en réalité. À qui est-ce que l'odeur de la fosse plaît? Il faut être malade. Vous voyez, mes très chers frères, aujourd'hui, malheureusement, à cause de l'infléchissement de la discipline, à cause de la discipline relâchée, de la morale relâchée, eh bien, d'une certaine manière, on fait porter toute l'importance sur l'état de grâce. on insiste pour que les gens soient en état de grâce, donc du coup il faut qu'ils se confessent extrêmement souvent pour retrouver tout le temps l'état de grâce, mais tout ceci est très bien. Le problème, c'est que l'état de grâce ne se soutient que par une vie mortifiée, que par une vie de véritable converti, de véritable conversion. Bon, je pense que tout le monde est d'accord, évidemment, mais encore faut-il que ça soit fait et que la vie soit aussi ordonnée. Et ça, c'est une autre question. Mais, vous voyez, il faut que notre conversion soit pour tous présente un aspect miraculeux. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de se laisser véritablement transformer par Dieu, qui est la force de son peuple. Les avantages de cette situation, mes très chers frères, de cette nouveauté de vie, qui est une nouveauté qui se manifeste par une abondance de fruits et par une transformation miraculeuse de ce que nous étions, fait que, mes très chers frères, nous entendons résonner à nos paroles, ces paroles du Christ. J'ai pitié de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils ne me quittent pas, et ils n'ont pas de quoi manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils tomberont de défaillance en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Un auteur nous dit, ou plutôt s'exclame, « Quel bonheur d'être du nombre de ceux que Dieu regarde et dont il dit « J'ai pitié et compassion de cette âme ». Ce sont véritablement les élus, ce sont véritablement les vrais fidèles, les membres vivants du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. La marque, une des marques de l'élection, mes très chers frères, c'est quand on quitte tout pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'on le suit dans le désert pour l'écouter. Pas pour aller faire une balade, hein, pour l'écouter. Souvent, les gens se convertissent pour faire une balade dans le christianisme. On va voir un petit peu, je suis en mal de spiritualité, je vais voir un petit peu, je grappille des choses, et puis après je retourne chez moi. Non, il faut aller pour écouter notre Seigneur dans le désert. Une marque d'élection, mes très chers frères, c'est quand on reste 3 jours dans le désert pour l'écouter. Que l'on reste 3 jours dans le désert pour l'écouter et qu'on ne s'y ennuie pas, comme dit un auteur, et qu'on y persévère jusqu'à la défaillance. Qu'on y persévère jusqu'à la défaillance sans lui demander de quoi se nourrir. Qu'on y persévère jusqu'à la défaillance sans lui demander de quoi se nourrir, sans lui faire aucun reproche, mais en se confiant en sa bonté. Vous voyez, les gens pourraient dire, bon, cher maître, ça fait quand même 3 heures que vous parlez, vous avez pensé au casse-croûte, à l'enca, parce que toute personne qui nourrit les âmes doit aussi nourrir les corps, patati patata. Ces gens-là ont été 3 jours dans le désert, sans manger, ou en tout cas ils ont épuisé leur casse-croûte, ils ont été 3 jours sans manger dans le désert, pendus aux lèvres de notre Seigneur, écoutant la parole divine, sans se plaindre, sans faire la moindre remarque. Évidemment, ils étaient un peu fatigués. C'est pour cela que notre Seigneur dit « J'ai pitié de cette foule ». Mais voyez, notre Seigneur n'aurait pas pu avoir pitié de cette foule si cette foule était, comme la foule des Hébreux à certains moments dans le désert, était pleine de murmures en disant « Comment est-ce que c'est possible que Dieu nous ait fait sortir d'Égypte pour nous faire venir dans le désert où on n'a pas d'eau, on n'a pas de rien à manger, où il fait chaud, il y a des ennemis partout, on est attaqué par les Amalécites, c'est vraiment... » Et on murmure. Comment est-ce que vous voulez que Dieu ait pitié de nous quand nous sommes dans ces situations-là ? Alors vous allez dire, mais pourtant c'est un fait. C'est un fait, mais regardez cette foule admirable qui était avec notre Seigneur dans le désert. Elle ne se plaignait pas. Et c'est pour cela que notre Seigneur a eu pitié d'elle. Lorsque les Hébreux murmuraient, la colère de notre Seigneur, dit Moïse, s'embrasait contre eux. Pourtant, on pourrait dire, il n'avait pas tout à fait tort, c'est vrai que c'était dur. Lorsque l'on murmure contre Dieu, lorsqu'on lui reproche de nous avoir sevrés de nos oignons, lorsque on lui reproche de ne pas avoir pourvu au pain, alors qu'on a quand même fait l'effort de le suivre dans le désert, et il pourrait être reconnaissant envers des gens qui font un effort pour l'écouter, Dieu s'irrite contre nous. Ou plutôt, Dieu n'a pas encore pitié de nous. Mais lorsque nous sommes défaillants, et que parce que nous avons écouté notre Seigneur, lorsque défaillants, nous ne nous plaignons pas, alors notre Seigneur a pitié de cette foule. Est-ce que le pélagien dira « ce n'est que justice, ça fait quand même 3 jours » Non, mes très chers frères. L'orthodoxe dira « Notre Seigneur a pitié de nous dans la mesure où nous nous comportons d'une façon qui est une façon qui est pleine de gratitude, une façon reconnaissante. Nous pourrions être dans les villes en train d'être, de vautrer dans le péché, loin du désert où notre Seigneur prêche. C'est une grâce que Dieu nous a faite de nous délivrer de la servitude de l'Égypte. C'est une grâce que notre Seigneur nous a faite de nous faire sortir de Capharnaüm pour nous rassembler dans le désert et pour nous enseigner. Si Dieu nous a fait la grâce de nous séparer d'avec les impies, d'avec les méchants, d'avec les enfants du diable, il nous fera toutes les autres grâces inférieures dont nous aurons besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Tout le reste, c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons plein de besoins, puisque nous sommes humains en état de voie. Mais nous ne devons pas faire passer ces besoins avant la faim et la soif de la justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, cherchez la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, le service de Dieu, l'obéissance, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ne vous plaignez pas en disant à Dieu, vous voyez bien que, je vois bien que, en fait, c'est pas la peine de faire des efforts pour vous, puisque vous, il n'y a pas de retour d'ascenseur. Est-ce que c'est une façon de parler à Dieu? Est-ce que c'est une façon de parler même à ses parents? Certains sont venus de loin, dit notre Seigneur. Et un auteur nous dit, ils sont venus d'un péché très profond dont ils se sont écartés. Voyez, il sait ce que nous avons fait sous l'influence de la grâce. Et dans la mesure où nous persévérons dans l'humilité et dans la confiance en Dieu, en lui, Dieu prend soin de nous. Un auteur nous dit, peut-on craindre de manquer de quelque chose quand on a Jésus-Christ avec soi et pour pasteur? Eh bien, mes très chers frères, méditons sur le fait que nous sommes membres du corps mystique de notre pasteur et de notre sauveur Jésus-Christ. Et souvenons-nous toujours que Dieu est la force de son peuple et qu'il est le protecteur et le salut de son Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.